Bonsoir à tous, merci d'être présents pour ce conseil municipal. Je vais procéder. Alors, il y a un incendie en cours sur la commune de Carnac. Là, il y a des bottes de foin qui auraient pris feu au puceau, mais je crois que le feu est à peu près maîtrisé, Gérard. Mais voilà. Mais Loïc est en préalerte, donc il sera peut-être amené à nous quitter si d'aventure le feu reprenait. Bonjour Charles.
Bonjour.
Et donc, je vais donc procéder à l'appel. Monsieur Tom Laborde. Voilà. Monsieur Yann Guimard. D'accord, bon. Monsieur Pierre-Léon Luneau est présent. Madame Janine Le Golvin est présente. Madame Justine Vienne est présente. Charles, et ça nous fait particulièrement plaisir, est présent. Juliette Cordès est présente. Philippe Le Guenec, Madame Françoise Le Pennec, elle est absente, elle a pouvoir à Monsieur Durand. Monsieur Christophe Richard a donné pouvoir à Monsieur Philippe Le Guenec. Madame Morgane Petit, Monsieur Jean-Paul Kergosien, Madame Christine Desjardins, Monsieur Olivier Buquin a donné pouvoir à Monsieur Olivier Lepic, Madame Marie-Pierre Gasser a donné pouvoir à Monsieur Gérard Marc-Albert, Monsieur Jean-Luc Servet, présent. Madame Christine Lamandé. Monsieur Michel Durand, j'espère que tu es prêt, Michel, c'est toi qui as le principal parti de l'ordre du jour aujourd'hui. Comment ça, t'es pas prêt ? Madame Catherine Idoard a donné pouvoir à Madame Chris Lamandé. Monsieur Loïc Houdois est donc présent pour l'instant, puisqu'on l'avait noté absent, mais... Madame Catherine Alain a donné pouvoir à Monsieur Jean-Paul Kergosien. Monsieur Gérard Marc-Albert est présent. Madame Sylvie Robineau, Monsieur Pascal Lejean... Madame Nadine Rouet, je crois que je l'ai vue revenir. Elle est présente. Madame Katia Sculo, présente. Et Olivier Lepic, également présent. Nous avons donc le quorum pour délibérer. Et Monsieur Guimard est arrivé, pardon, tout en discrétion. Et donc, je coche la présence de Monsieur Guimard. Merci, Yann. On va désigner un secrétaire ou une secrétaire de séance. Tom, tu es le Benjamin, je crois. Donc, si ça ne te dérange pas... Tu as bien compris que ça n'était pas un travail immense que d'être secrétaire de séance. Et donc, M. Tom Laborde est désigné secrétaire de séance. Y a-t-il des commentaires sur le procès-verbal de la séance du 25 mars 2022 ? Non, il est adopté à l'unanimité. Vous avez également découvert les comptes rendus des décisions du maire qui portent des numéros 55 à 75. Et s'il y a des questions, c'est le moment. Monsieur Guimard.
Oui, bonjour. Sur le ski d'Anoz, on est à 100 000, là, je crois. Le 61.
D'accord.
99 810. C'est le coût global ou pas ? Je ne sais plus. Et c'est bien réparti entre trois structures ?
Monsieur Lejean.
Alors, vous avez voté au niveau du budget 120 000 euros pour l'ensemble de ce qu'est d'Anoz. Et là, vous avez juste la partie animation et sous-traitance avec l'entreprise qui vient faire le son et lumière dans les menhirs. Et la différence, c'est la sécurité à côté.
Juste pour compléter, quand vous dites qu'on avait voté 120 000 euros, donc le CMN porte aussi le projet et la mairie, c'est ça ? Et c'est l'organisation, c'est l'OT ?
Non. Alors, je vais juste vous rappeler, il y a une convention entre la mairie et le CMN, c'est tous les deux qui portent effectivement le projet Ski d'Anoz, et derrière, il y a une participation de Paysages de Mégalith et une participation de l'Office du tourisme en tant que gestion de la billetterie.
D'accord. Et ça représente du coup le global pour
c'est
le
120 000.
120 000. D'accord.
D'accord. Et après, vous avez les recettes, hein, puisqu'il y a effectivement le CMN qui participe, ainsi de suite, sachant qu'on est toujours dans la, si possible, dans cette logique-là, d'avoir un tiers de partenariat, un tiers de billetterie et un tiers de participation pour la mairie.
D'accord.
J'en ai parlé vite fait. Bonjour. J'en ai parlé vite fait à M. Durand. Est-ce que vous pourriez nous rappeler sur les 64 65, 67, 75, de quel contentieux il s'agit, s'il vous plaît ? Et à quoi ça se rapporte ?
Laquelle ? 67 ?
Je crois que c'est 64, 65, 67, 75.
Alors, 64, c'est Renou. Renou, c'est une demande d'annulation d'un PC pour gêne visuel, c'est tout. Uniquement ça. Donc, c'est l'ouverture du dossier. Le 65, Monsieur Hamon, oui, Monsieur Hamon, bah, c'est une, comment on peut appeler ça, c'est une demande, un recours indemnitaire, en fait. Estime avoir perdu de l'exploitation, chiffre d'exploitation, par son bar, par son camping. Je te rappelle, on a déjà parlé plusieurs fois en commission d'urbanisme. Voilà, c'est uniquement ça. C'est un montant assez élevé, quand même. 130 000.
Et c'est une chance d'aboutir, ça ?
Non. Non, absolument pas.
Il a construit un... tu connais le dossier, il a construit un bar sans autorisation d'urbanisme. Et donc, et comme on a empêché que ce bar... imaginez bien qu'un local qui est soit public, il y a un certain nombre de démarches, notamment au niveau sécuritaire. Évidemment, on l'a pas
autorisé à exploiter. Et donc, il dit qu'il aurait pu faire 130 000 euros de chiffre d'affaires dans son bar. Donc, non, il n'y a aucune chance. Et de toute façon, on ne pouvait pas le laisser opérer.
Non, de toute façon, oui. De toute manière, il ne pouvait pas opérer de cette manière-là. Et puis, même la salle de restaurant, enfin, qu'il a tenté d'ouverture, c'était une salle de repos prévue à l'origine. Donc transformé en salle de restaurant avec terrasse surélevée, enfin tout un truc sans autorisation.
Sachant qu'évidemment, pour le maire, le risque, c'est du pénal. Hein. Si jamais il y a quelqu'un, il y a un bar, il y a un feu et qu'il y a trois morts, donc voilà, on peut pas sur des, on peut même pas être conciliant sur des fautes d'urbanisme comme celle-là.
L'autre, c'est Moron, c'est ça, c'est le 67. Moron, c'est pareil, c'est un recours contre un permis, contre un PC, pour gêne visuelle.
Classique du voisin qui ne veut pas avoir
voilà,
une construction.
Voilà, il ne veut pas avoir de voisin, en fait. Le Rossignol, bah, c'est pareil. Le Rossignol, exactement, sur la route du Pau, la 75.
Monsieur Luneau ?
Pour la 70, travaux d'aménagement du cimetière Saint-Fiacre, pavage d'allée, il y a déjà pas mal d'enrobé qui a été fait dans le cimetière Saint-Fiacre et on parle beaucoup de lutte contre l'artificialisation des sols. Ça me paraît toujours un peu bizarre. D'un côté, on essaye d'inciter les gens à ne pas bitumer leur jardin pour faire une place de parking et au cimetière, on ne montre pas l'exemple.
C'est pas qu'on ne montre pas l'exemple, c'est que premièrement, c'est un cimetière et c'est très compliqué d'entretien. Les gens se plaignent qu'il y a les herbes qui poussent un petit peu partout qu'on n'arrive pas à entretenir parce que les gens, mine de rien, n'arrivent qu'à certaines périodes de voir les tombes qui leur appartiennent et trouvent que c'est jamais très très bien nettoyé, même s'ils passent beaucoup de temps. Et donc, il était décidé de faire différemment. Il y a des endroits où on laisse les herbes et on tombe toutes les semaines. Et vu la largeur qu'il y a entre les tombes dans l'ancien cimetière, c'est un peu compliqué. Donc, c'est la seule solution qu'on a trouvée qui aille à peu près bien et qui permette justement de laisser propre. Mais bon, c'est pas une grande surface. Il reste pas des hectares ou des dizaines de mètres carrés là-bas. Donc, c'est la seule solution qu'on a trouvée pour ça, qu'il y ait un entretien un peu moins compliqué, que les gens soient un peu plus contents parce qu'on se fait souvent engueuler parce qu'il y a des herbes sur le côté, alors que ça fait partie de l'emprise de la tombe. Et donc,
mais sur le fond, je suis assez d'accord avec Pierre Léon.
Oui, non, je suis d'accord.
Moi, j'aime beaucoup les cimetières anglo-saxons, oui. Tout en herbe, oui. Avec simplement une pierre tombale. Ceci dit, il y a aussi deux choses. C'est que la plupart des gens qui vont sur le cimetière sont des personnes âgées. Et donc, dès qu'il y a des chutes ou des choses comme ça, voilà, elles viennent se plaindre. Et puis, il y a aussi les professionnels qui doivent accéder avec leur véhicule assez loin dans le cimetière. Mais dans l'absolu, oui, je suis assez d'accord. L'idéal, ce serait de ne pas imperméabiliser et d'avoir des cimetières comme en Irlande, totalement enherbés. Mais voilà, ce n'est pas du tout la culture. Et on reçoit quand même beaucoup de plaintes de gens au cimetière dès que ce n'est pas entretenu, dès que les herbes ne sont pas coupées ou dès que les gens ne peuvent pas se déplacer en sécurité. Ça pose vraiment des problèmes.
On parle bien des visiteurs, pas des occupants du cimetière.
Tout à fait.
Merci.
Tout à fait.
Mais je vous entends dire que idéalement, il ne faudrait pas artificialiser et le faire. Pour quelques dizaines de gens sur plusieurs milliers d'habitants. Pourquoi on bitume pour ne pas désherber ?
Pour des raisons qu'on vient de vous expliquer,
oui, mais
M. Luneau.
La plage, elle est dangereuse aussi, elle n'est pas plane.
Monsieur Luneau, encore une fois, c'est dans l'absolu, c'est une idée excellente, sauf que vous n'avez pas encore occupé de ces fonctions. Et donc, quand vous êtes face à des citoyens qui viennent vous demander un certain nombre de choses, et je peux dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour le cimetière, vous êtes obligé aussi de tenir compte des gens qui se rendent dans ce cimetière. Et idéalement, je suis d'accord avec vous, sauf que ce n'est pas aussi facile d'avoir une vision un petit peu, je dirais, pas simpliste, mais il faut penser aussi aux utilisateurs. Effectivement, les gens qui sont dans les tombes ne se plaignent pas, mais les gens qui viennent visiter sont souvent des personnes assez âgées. Ils sont très sensibles à ce genre de choses. Est-ce qu'il y a d'autres points sur les décisions du maire ? On passe au budget principal de la commune, monsieur Lejean, la décision modificative numéro 1.
Non. Excusez-moi, bonjour à tout le monde. Décision modificative numéro 1, donc pour le budget de la commune en dépenses de fonctionnement et en recettes de fonctionnement. Comme ça a été vu lors de la commission finance. Effectivement, il a été rajouté, et ce qui avait été aussi évoqué lors des différentes commissions, culture, associations, derrière, que certaines associations n'avaient pas fait des demandes, effectivement, de subventions dues au Covid et avec un petit peu du retard, et qu'il fallait s'attendre, effectivement, à avoir des demandes après coup. Donc là, vous avez un montant de 32 000 euros, qui correspond à 25 000 euros pour l'ABVA. L'ABVA, c'est l'Association Bretonne de Véhicules Anciens. Et lors de nos commissions, je vous avais fait part, effectivement, qu'on n'avait pas encore reçu, mais qu'on attendait la demande officielle pour pouvoir l'inscrire. La REDADEG pour 350 euros. PACA, le festival PACA pour 1 000 euros. Le Haut Graou, qui est le festival d'orgue, pour 3 500 euros. Et une subvention pour l'aide à l'Ukraine à la hauteur de 2 000 euros, ce qui fait un ensemble, je l'arrondis à 32 000 euros, hein, parce que c'est pas tout à fait 32 000, 31 850, mais j'ai arrondi à 32 000 euros. Et bien sûr, nous avons pris dans le poste, puisque la M57 nous le permet de le faire maintenant, sur autres charges diverses de gestion courante.
Des questions ? Pas de questions ? Passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Abstention, unanimité, je vous remercie. On reste dans les questions financières.
Alors, en dépenses d'investissement et en recettes d'investissement, pareil, des modifications. Donc, il y a une partie qui est due à la M57, un changement de compte pour 60 000 euros. C'est l'imputation pour Akerabus suite aux fouilles archéologiques qu'il y a eu. Donc, juste le renivelage au niveau des fouilles qui ont été faites. Pour 60 000 euros. Là-dessus, il faut rajouter effectivement 10 000 euros. On a eu un souci pour les fourreaux de Carabus. J'allais dire une bêtise. En plus, donc on a en profité pour pouvoir mettre des fourreaux lorsqu'on a refait ça. Donc, ce qui fait un montant global de 70 000 euros. On a inscrit pour 110 000 euros qui correspond à la fibre vidéo de protection, ce qu'on appelle le fibre noir, ce qui nous permet d'avoir une fibre dédiée pour l'ensemble des bâtiments administratifs, donc en interne, derrière, et qui permettra aussi de résoudre certains problèmes au niveau des abonnements, donc ce qui nous permettra de supprimer des abonnements pour les caméras vidéo, pour différentes choses, et ainsi d'améliorer le réseau sur la place du marché pendant le marché hebdomadaire. Et il y a, ça c'est pour une hauteur de 100 000 euros, et il y a une potence orange, il y a eu un problème suite à un élagage, il y a un poteau orange qui est tombé, donc du coup c'est enfouissement du réseau, enfin du poteau et du câble, et donc pour 10 000 euros, mais derrière, de toute façon, on aura un remboursement assurance, puisque c'est pas nous qui l'avons fait. Non, pas c'est le câble, oui, enfin je m'avais compris, monsieur le maire. Hein. L'anémomètre pour 850 euros, un anémomètre pour 850 euros à Saint-Colomban. Vous savez qu'on a mis une caméra pour avoir une vision sur Saint-Colomban qui nous permet effectivement d'envoyer des images et derrière, et à la demande des différents opérateurs qu'il y a sur la plage de Saint-Colomban, surtout au niveau de la voile, ils nous ont demandé de mettre un anémomètre pour 850 euros. On a 25 000 euros qui est dû à un changement de poste. Au niveau du centre administratif, effectivement, toutes les postes, les ordinateurs qui étaient sous Windows 7 avec une mise à jour se sont retrouvés un petit peu bloqués, donc plus assez de puissance, donc on a été obligé de renouveler différents postes, et entre autres y compris le mien, mais voilà, il y en a 15 qui ont été prévus. L'achat de jeux vidéo pour la société pour la médiathèque, alors là, effectivement, c'est plus une erreur de ma part qui n'avait pas été inscrite parce qu'on en avait discuté lors du vote du budget et pour raison X, Y, je ne sais pas pourquoi, n'est passée en maille dans le budget. Donc c'est pour ça qu'on la remet. Donc voilà, avez-vous des questions? Bien sûr, l'ensemble est financé toujours par une compensation, par la ligne derrière qui nous permet de le faire dans la M57 et ce qu'on avait prévu dans le budget puisqu'on savait qu'il y avait quelques petites modifications à venir en cours. Tout à fait. Donc là, vous avez 30 000 euros qui sont les relevés topographiques pour la prépa des plans d'exécution du giratoire d'Orient, du Guéclin, Arvor et les Guémons suite aux travaux. 61 000 euros qui ont été remis dans le MAC alors qu'on en avait parlé, c'est les travaux de Manet-Brésil et Crucuny puisqu'ils rentrent eux dans le MAC. Donc il a fallu rallonger le montant du MAC pour faire face à ces travaux-là, travaux que nous avions votés dans le budget. Je vous rappelle, et 50 000 euros, mais que vous allez voir un peu plus loin, c'est la modification de la PCP numéro 7, qui est le réseau d'eau pluviale de Saint-Colomban, mais on va en parler un petit peu après, plus en détail.
Alors justement, vous, pour financer tout ça, vous avez donc au chapitre 21... 38, autre construction, donc supprimer 301-500, c'est, ça correspond à quoi? Il y a quelque chose que vous n'allez pas faire ou c'est parce que vous n'avez pas...
Non, c'est là qu'on va prendre effectivement les travaux supplémentaires. Le montant, le budget des travaux supplémentaires sont pris dans les autres constructions, qui étaient entre guillemets ce qu'on appelle un peu, là, qui nous permet dans la M57 de mettre effectivement une réserve pour pouvoir compenser ces problématiques-là.
Ok, merci.
Parfait. On a voté le fonctionnement et l'investissement. On va voter l'investissement. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On passe à cette fameuse APCP sur les eaux pluviales à Saint-Colomban.
Tout à fait. Donc, rappelez-vous, on avait voté une APCP à la hauteur de 850 000 euros TTC pour les travaux de restructuration des eaux pluviales sur le secteur de Saint-Colomban. Après, effectivement, le lancement d'appel d'offres, il s'est aperçu que le montant était trop juste et qu'il a fallu rallonger. Et on en a profité pour modifier aussi sur les années la PCP. Donc, en 2022, vous avez 50 000 euros supplémentaires à 475 000 euros par rapport à ce qu'on avait voté en début d'année à 425 000 euros. On a en 2023, 385 000 euros qui correspond à 110 000 euros supplémentaires par rapport à ce qu'on avait voté sur le budget primitif et en 2024 120 000 euros qui correspond à 30 000 euros de moins là par contre par rapport à ce qu'on avait voté en budget primitif. Mais le global, on passe de 850 à 980 000 euros.
Des questions sur cette APCP? Il n'y a pas de questions, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Encore un rapport financier, cette fois-ci, sur le budget annexe du musée, également une décision modificative.
Tout à fait. Dans le budget annexe du musée, nous avons rajouté une ligne de 5 000 euros pour fêtes et cérémonies, dans la prévision que c'est les 140e anniversaire du musée. Et nous avons mis autre charge de gestion courante, 5 000 euros, la même problématique sur le problème des logiciels aussi à la médiathèque que je vous ai expliqué par rapport à la mairie. Ce qui fait un total de 10 000 euros.
Alors, Cathy n'est pas là, mais c'est quand le 140e anniversaire?
De toute façon, on sera...
Donc le conseil municipal sera invité, j'imagine?
Bien sûr.
Ah, vous avez déjà reçu. C'est bien organisé. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions sur cette décision modificative pour le musée? Pas de questions? Pas de vote contre? Pas d'abstention? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Durand, c'est à vous. Je sais que vous n'êtes pas prêt, mais il va falloir quand même être prêt. Ça va aller? Alors, l'approbation de la modification donc, du plan local d'urbanisme dont nous avons déjà débattu en conseil municipal. Voilà. Cette fois-ci, c'est le vote final de cette approbation de modification.
Alors, j'allais dire enfin le vote final, parce que je dois dire avant tout, c'est que ça a été un travail complètement fou du service urbain total. Et vraiment, chacun s'y est investi et ça a vraiment été très, très dur. Voilà, donc ça, c'est une chose, parce que faut dire que tout le monde s'y est mis quand même et on a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Enfin, tout le monde l'a consulté. De toute façon, ça a été exposé pendant l'enquête publique. Hein. Donc tout le monde a pu le consulter. Vous l'avez eu également dans le dossier. Et je peux retracer par mémoire quand même, pour mémoire, toutes les étapes. On a eu le PLU approuvé le 24-6-2016. Ça a fait l'objet de mise en compatibilité avec la VAP qui a été approuvée le 10-14-2. Alors, premièrement, les objectifs. Modification des OAP. On l'a en résumé ici. Hein. Modification des OAP, modification de zonage, modification du règlement également. Les consultations, donc les consultations sur le projet de modif, la MRAE, l'enquête publique, commissaire enquêteur, Madame Henri Laure, du 29-10 au 30-11, elle a consigné toutes ses opérations sous les registres, ainsi que ceux dématérialisés. Puis elle a remis son rapport et conclusion le 31-12-2021. Prise en compte, donc, l'avis favorable de la commissaire enquêtrice, avec certaines réserves, à savoir clarifier certains points, notamment les articles 1 et 2, compléter les OAP 14A, 14B, 15, choses qui ont été faites, bien entendu. Pas d'activité commerciale également en UIA et limite de périmètre de diversité commerciale. Voilà, en résumé, c'est tout ce que l'on peut dire de toute cette approbation de plan de modification du PLU numéro 1.
Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur cette modification ? Monsieur Guimard ?
Par rapport à ce qu'on avait voté effectivement au mois d'août, c'est ça ? On voit dans le point 3, modification du règlement, qu'il a été rajouté complément de l'annexe 1 concernant le stationnement. Si j'ai bien lu dans le truc, c'est une ligne qui a été rajoutée, qui ne veut pas dire grand-chose. Donc c'était juste pour faire plaisir à la commissaire enquêtrice. Peut-être pas.
On essaye de suivre les avis de la commissaire enquêtrice, c'est un peu l'esprit.
Mais là, enfin, après, la ligne qui a été rajoutée, c'est pas...
L'annexe 1 concernant le stationnement, c'est, est-ce que c'est une répartition du stationnement ?
Pardon ? C'est préciser
les éléments de l'instruction. D'accord. Ok, le calcul en fait des stationnements. D'accord.
Madame
Legolvan ? Oui, c'est ça. La phrase est exacte. Pardon, parce que je n'avais pas relevé, mais le terme est très fort. Ah ben, je te laisse faire, si tu veux.
Voilà, pour le Lidl, c'est précisé, le stationnement n'est pas défini de manière impérative, pardon, mais doit correspondre à la fréquentation attendue. Donc ce sera déterminé par le Lidl, a priori. Ça n'engage à rien.
Ce sera déterminé
surtout par la surface que va faire, puisque quand vous êtes... Pardon, Michel.
Oui, vas-y.
Non, vas-y.
Quand vous êtes dans un ERP qui reçoit du public et dans un établissement comme une grande surface, par rapport à la surface de vente, vous devez avoir X places de stationnement. Or, pour l'instant, comme il n'y avait pas le plan définitif et exactement, et aussi l'approbation à la CDAC, il était impossible de mettre le nombre de parkings réels.
Il y a un autre point qui m'a un petit peu attiré gêné, c'est le point numéro 2 sur les consultations. Alors d'une part, on signe le 29 août ou le 26 août et il y a déjà une réponse le 3 septembre, donc c'est un peu rapide, semble-t-il. Mais surtout, ça dit qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une étude environnementale. Or, c'est l'entrée du bourg de Carnac. Il y a un complexe sportif qui va se faire et se développer autour après. Il y aura probablement, enfin, on pensait avoir une piste cyclable sur cette rue-là. Je trouve un peu dommage qu'il n'y ait pas eu d'études environnementales de fait par la MRA.
Ouais, c'est pas de notre fait, hein, c'est l'État qui nous a indiqué que ce n'était pas nécessaire. Donc,
Bah, c'est bien dommage.
La piste cyclable, elle existe.
Elle est prévue.
Elle est prévue. Il y a un emplacement réservé dans la rue Saint-Candély. Elle est bien prévue.
La question, c'était pourquoi.
Bien sûr.
Mais ce sont les services de l'État en fait qui décident ou non si une étude est nécessaire.
Il y a d'autres questions,
Madame Le Golvan.
Enfin, même si c'est les services de l'État ont répondu rapidement, je trouve que c'est quand même un peu flou parce que là, on se demande même, enfin perso, ou quand on a travaillé en tout cas le conseil de ce soir, on voit donc tout en attirant l'attention de la commune sur le risque d'accroissement des nuisances sonores, donc quand même encore heureux qu'il l'ait vu, pour les 3 ou 4 maisons situées près du site d'implantation prévu pour le magasin Lidl. Tous autour de cette table, on sait très bien que ce n'est pas 3 ou 4 maisons, qu'il y a beaucoup plus d'habitations, il y a quand même du bâti tout autour du complexe et qu'il y aura quand même une gêne occasionnée. Donc, un petit peu surprise quand même que, comme disait M. Luneau, on parle beaucoup de tout ce qui est développement durable, d'environnement, et finalement, quand il s'agit d'installer un Lidl à cet endroit-là, tout passe, quoi. Et je pense qu'en tant que maire, si vous l'aviez demandé, ça n'aurait pas contrarié l'État. Donc déjà pour ça. Alors moi, j'ai fait un petit topo. Donc je ne sais pas, tu l'as. Ouais. On a fait un petit topo. Donc on va voter contre cette modification du PLU, mais ça ne change pas de la première fois. Donc, au risque de se répéter, dire que de faire déjà une étude qui coûte pas loin de 50 000 euros pour l'aménagement du complexe sportif, bon, c'est une aberration, déjà, parce que le périmètre que vous avez donné donc, au cabinet d'études n'intègre pas les 9 000 mètres carrés que vous destinez donc, au futur Lidl. D'autre part, le règlement écrit, donc, en fait, quand on lit, montre que même si on passe de UBL en UBAP, hein, en plus, donc, il y a le petit P de la VAP, là, on peut penser que, justement, on va préserver, et c'est ce que ça veut dire. Enfin, moi, je l'ai vu en commission d'urbanisme, et là, je regarde même le bail, qu'on doit suivre donc certaines prescriptions. Donc là, les prescriptions sont telles que la réalisation d'un tel bâtiment ne peut être envisagée, d'une part, pour l'architecture environnementale, c'est pavillonnaire et il n'y a pas de... Vous avez créé une zone de délimitation commerciale pour pouvoir intégrer ce Lidl, sinon ce n'était pas possible, même en UBAP. Donc ça aussi, dans ce dossier, j'ai l'impression que tout est fait pour que ce Lidl, il n'y ait pas de problème, qu'il soit vraiment fait et que la population ne soit pas entendue. Quid de la future piste cyclable? Vous avez beau dire qu'en effet, il y a un emplacement réservé. Il faut savoir que là, actuellement, le Lidl, il y a une entrée et une sortie, ou en tout cas, il y a deux voies qui permettent de dégager les voitures, ou par la rue Saint-Cornélie, ou par la rue du Ménec. Là, il n'y aura que la rue Saint-Cornélie pour absorber en fait tout le flux. Donc, d'un point de vue sécurité, et ça, dans les contraintes qui sont dans le règlement écrit, vous ne pouvez pas mettre en insécurité plus que ça n'est déjà. Donc, ça me paraît surprenant qu'on continue quand même dans ce projet. En plus, quelque part, par rapport à la population, il y a des projets quand même structurants pour nos jeunes et pour nous-mêmes. On a des projets de skatepark, de salles de sport, une demande pour les salles de gym. Donc, c'est vrai que ces 9000 m² auraient été bien utiles pour la réalisation, en tout cas, d'un complexe aéré. Hein, je pense qu'on le mérite. Vous allez créer, parce que ça aussi c'est noté hein, quand on étudie le dossier, et en tout cas le règlement écrit le préconise et le valide même, puisqu'on vous dit que sur cette D781, il faudra mettre en sécurité, et s'il y a une demande particulière, donc là c'est un rond-point, donc ça veut dire qu'à Carnac, sur à peu près 500 mètres, on en aura 3. Donc bon, je ne sais pas si c'est très valorisant, mais en tout cas, voilà. Il y a aussi, on parle de la station d'épuration, donc là je me pose la question, quand est-ce que va se réaliser ce Lidl, si toutefois, enfin je ne souhaite pas qu'il soit réalisé, donc ça vous l'avez bien compris, mais ça va encore engorger plus notre station. Question, a-t-on besoin d'un autre grand magasin? Vous disiez que vous vouliez qu'il y ait une concentration commerciale. On a déjà donné les moyens, enfin en tout cas la commune, les Carnacois ont déjà donné les moyens au Super-U de s'agrandir pour le bien-être des Carnacois et aussi des touristes, parce qu'on est conscient qu'ils sont là. Mais est-ce qu'il faut encore se suréquiper en grand magasin? En plus, est-ce que la mairie, est-ce que nous, conseil municipal, on a vocation à favoriser le développement d'une telle entité, du Lidl, tout simplement? Et puis, question, ça va coûter aux Carnacois, puisque ça fait partie quand même de notre patrimoine. Quel prix au mètre carré? Est-ce que, comme le Super U, on sera à 200 euros? Enfin, voilà, pour toutes ces questions-là, enfin, toutes ces raisons-là aussi. Et il y en a d'autres, hein, je me suis arrêtée quand même. On votera contre votre modification de PLU.
Parfait, non, mais c'est cohérent avec votre position initiale, et je vous en remercie. La cohérence, c'est toujours effectivement important. On a déjà eu le débat sur cette question. Hein. La question était simple, c'était soit on trouvait une solution, soit il n'y avait plus de Lidl. Parce que le Lidl, pour des raisons qui sont liées au foncier et aux propriétaires actuels du terrain dont ils sont locataires, ne pouvait plus rester là. Donc c'est une enseigne, effectivement, qui est... très fréquentée par les Carnacois, parce qu'elle est positionnée sur une offre pour des gens qui n'ont pas forcément des gros revenus. Et effectivement, ça aurait été très dommage qu'elle soit obligée de fermer. Et c'est pour cette raison qu'on a travaillé sur cette solution, qui n'était pas la première solution. Hein. La première solution qu'on a privilégiée, malgré les négociations avec les propriétaires, ça n'a pas été possible. La première hypothèse, c'était qu'ils restent là où ils étaient, c'est-à-dire qu'ils se rénovent là où ils étaient. Et je peux dire qu'on a mouillé notre chemise avec Pascal pour... Mais bon, voilà, les gens sont propriétaires de leur foncier, on ne peut pas les obliger à vendre. Et donc, et heureusement d'ailleurs, hein, parce que c'est pas... Et donc, effectivement, c'était la solution. Pour le complexe sportif, Christophe n'est pas là, mais aujourd'hui, le problème, on en a déjà parlé, c'est qu'on a, on a trois terrains de football, alors qu'il n'y a quasiment plus de clubs de football. Donc, je pense que les équipements que vous mentionnez, à savoir des salles pour le sport... en salle, yoga, et, elles vont pouvoir être réalisées sur l'emprise actuelle, moins celle du Lidl, sans problème. Et on sera amené dans ce conseil municipal à se pencher sur l'étude qui est en cours, qui n'est pas seulement, je dirais, une étude liée à la surface, mais qui est liée aussi aux usages. On en a parlé, et Christophe l'a très bien décrit, hein, les usages sportifs changent. Les gens sont... La pratique du sport s'est beaucoup individualisée. Les clubs, aujourd'hui, dépérissent. Hein. On voit bien, dans beaucoup de communes alentours, il y a des terrains de foot qui sont quasiment des friches. À la Trinité-sur-Mer, ça a été le cas pendant très très longtemps. C'est le cas dans d'autres communes, parce que les pratiques sportives évoluent. Et donc, il nous faut une aire sportive qui soit adaptée aux pratiques actuelles. C'est dommage que cette première solution n'ait pas fonctionné, mais on a estimé qu'il fallait absolument que cette enseigne qui existe aujourd'hui à Carnac et qui rencontre beaucoup de succès auprès des Carnacois puisse rester sur la commune. Monsieur Luneau.
Et pourquoi le choix du Bosséno a été écarté? Il y a une zone artisanale et commerciale qui fonctionne bien, il y a les accès, il y a un rond-point.
Alors, le Bosséno a été écarté,
en plus,
mais
vous avez Plouarnel qui est déjà bien doté.
Monsieur Luneau, on a écarté, c'était au cours du mandat précédent, hein. D'abord, c'est pas possible techniquement, et deux, on a souhaité garder dans les zones commerciales, et c'est pour ça qu'on a demandé au Super U de rester là où il était, de ne pas se déplacer dans ces zones commerciales périurbaines dont souffrent beaucoup de villes aujourd'hui, hein, parce que quand vous faites ça, vous générez souvent autour de ces supermarchés eh bien des petites zones commerciales avec une boulangerie, avec une pharmacie, et donc vous mettez à risque le centre-bourg. C'est exactement pour ces raisons qu'on n'a pas souhaité qu'ils aillent trop loin et qu'ils restent, comme le Lidl aujourd'hui ou comme le Super U qui se rénove là où il est, dans la zone commerciale existante et ne pas en créer une autre, en tout cas pour des produits de bouche ailleurs. Voilà pourquoi on a décidé de ne pas faire au Bosséno. Et techniquement, d'ailleurs, ce n'était pas possible.
Et la partie du Super U qui se trouve actuellement au Bosséno redéménagera?
Alors non, la partie qui c'est un dépôt aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que un certain nombre d'activités sont autorisées sur la zone et pas d'autres. Et donc là, on parle d'alimentaire, en fait, c'est pour ça. Mais le Super U aujourd'hui a un entrepôt qui est donc juste sur la route entre la station-service et il a une activité, mais qui est stockage, garage, produits de jardinage, mais pas de produits alimentaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce PLU ?
C'est pas une question, c'est une remarque. Moi, je vais voter contre aussi, parce que je trouve ça irresponsable de sacrifier une partie du complexe sportif. Quand on voit la carte, n'importe qui vous dira c'est trop bête d'avoir une aussi belle réserve foncière autour du sport, quel qu'il soit, et de l'avenir qu'on ne connaît pas du sport, parce qu'il y a 20 ans, le skate, c'était pas grand-chose, et aujourd'hui, c'est très important. De laisser la pratique sportive à vue sur ces grands axes, là, ça va, vous allez couper l'accès que vous pourriez avoir le jour où vous faites un beau projet de skatepark ou un complexe sportif. Il y avait un accès direct sur la route principale, c'est bête. Le Lidl, c'est quand même pas la meilleure alimentation. Certes, elle est bon marché. Oui, mais c'est l'argument, c'est de garder une offre. Est-ce qu'il est nécessaire de sacrifier un complexe sportif pour le Lidl? Je pense que non. Et franchement, et je demande le vote à bulletin secret pour cette décision du modificatif du PLU, que vous avez refusé pour le musée. Et...
Non, mais je refuserai là aussi. Pourquoi? Il faut les deux tiers. Enfin, pourquoi faire? Chacun. Dans mon groupe, c'est déjà arrivé que si des gens sont contre, ils peuvent voter contre, et je ne les empêche absolument pas. Donc,
mais voilà. On sacrifie un terrain de foot. Vous connaissez l'histoire du foot à Carnac, la place que ça.
J'y ai joué quelques années.
Ouais, bah oui, mais alors, c'est étonnant quand même. Hein. Pourquoi oui. Pas laisser.
Mais il n'y a plus. Quand je jouais au football, monsieur Luneau, il y avait 4 équipes seniors et il y avait 5 équipes de jeunes. C'était longtemps, c'était il y a longtemps, c'est vrai. Et aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, ça sert à quoi de garder un terrain de foot pour simplement...
Ça rend la commune attractive pour les jeunes qui s'installent. Il y a une équipe de foot qui fonctionne, il y a un complexe sportif.
Non, mais il suffit pas d'avoir trois terrains de foot pour qu'il y ait des jeunes qui jouent au foot. La preuve, on a trois terrains de foot et on n'a plus d'équipe.
Mais garder la place pour...
Pour
que ça recommence. Ah non, moi, je... je fais du... Mais en France, le foot a du succès, rassurez-moi.
Madame Le Golvan.
Oui, je voudrais juste rectifier quelque chose. C'est vrai qu'on parle toujours de terrain de foot, parce qu'évidemment, tout le monde sait que le foot a, évidemment, à Carnac, il y a moins de jeunes, mais bon, partout, a moins de succès. Mais c'est un complexe sportif. Ce terrain-là n'est pas... Monsieur Bietri, qui est là, n'est pas un terrain de foot. Et je trouve qu'on manipule un peu les mots pour vraiment que les personnes disent « bah oui, c'est vrai, il n'y a plus de foot, il n'y a plus personne qui... voilà, il n'y a plus de joueurs ». Mais cette réserve, c'était une réserve foncière destinée à accueillir d'autres infrastructures ou d'autres sports. On aurait pu faire une plateforme pour le basket, on aurait pu faire autre chose. Et là, à chaque fois, comme argument, on dit « ah mais ouais, mais il n'y a plus d'équipe de football ». Mais moi, enfin, quelque part, c'est pas cette priorité-là. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce bout de verdure du temps où Monsieur Bonnet avait créé toutes ces infrastructures, parce que quand même, on a son empreinte un petit peu partout, il avait dessiné le complexe là, parce que d'ailleurs, c'est là qu'il devait être. Et c'est vrai que cette emprise là au sol, elle mériterait de recevoir peut-être un skatepark, enfin peut-être autre chose, mais en tout cas, elle appartient au complexe. Et là, vous voulez modifier tout simplement pour mettre un Lidl. Alors, je rectifie quelque chose, parce que moi, je suis une adepte du Lidl, des autres magasins aussi, mais je suis tout près de chez moi. Alors, dire que c'est fait pour les pauvres, j'en fais partie, peut-être. C'est pas un problème.
Madame Le Golvan, il faut être très précise. Est-ce que j'ai dit que c'était pour les pauvres?
Moi, j'ai pas dit ça. Non, mais pour les gens qui ont peu de moyens. Bon, on peut faire un
bagage. J'ai dit, Madame Le Golvan, il faut être précis pour des gens qui ont des revenus plus modestes. Quand vous me citez, soyez précise.
Voilà.
Merci.
Je ne vous ai pas cité, j'ai cité en général. D'autre part, le Lidl, c'est vrai que c'est un magasin qui est très usité parce qu'il est en centre-ville, mais comme était le Casino auparavant. Et puis, c'est vrai que le Lidl, il a peut-être aussi en communication ou en tout cas en gestion pour nous, pour les ménagères, c'est simple, c'est confort et c'est rapide. Donc maintenant, ça c'est dit. Donc, mais ce que je veux dire, c'est le Lidl actuellement, là où il est et comme il est, ça fonctionne très bien. Alors, est-ce que nous, conseil municipal, c'est ma question, on a vocation à donner au Lidl France, notre terrain. En plus, j'ai hâte de savoir le prix. Notre terrain, parce que c'est presque un don à 200 euros.
On ne le donne pas, justement.
Oui, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. On en reparlera.
Sur les termes, on ne le donne pas.
On n'a pas vu, puisque vous n'avez pas donné de prix encore, mais il y a eu quand même, quand on budgétait 1,4 million, 9 000 mètres carrés divisé par 1,4 million, ça ne fait même pas ce que j'ai dit tout à l'heure.
C'est pas 9 000 mètres
carrés. Non, mais de toute façon, cette histoire, ça viendra devant le conseil municipal.
Ça viendra plus tard.
C'est un autre débat.
C'est un autre débat, mais n'empêche que cet argent-là appartient aux Carnacois et ce terrain appartient aux Carnacois. Que vous ayez l'ambition d'agrandir, de faire des grands magasins, ça, c'est votre ambition. Mais nous, notre ambition, elle n'est pas forcément celle-là, en tout cas des citoyens. C'est un peu dommage que vous sacrifiez, en tout cas, notre verdure. Vous êtes sans arrêt. Enfin,
vous ne représentez pas tous les citoyens de Carnac.
Beaucoup moins que vous, c'est vrai, puisque j'ai perdu.
Ne dites pas que c'est votre opinion et celle de votre groupe, mais ce n'est pas l'opinion.
Mais ce n'est pas parce que vous avez gagné les élections que tout le monde pense sur le sujet, sur ce sujet-là, comme vous.
Je ne dis pas le contraire, Madame Golvan, mais je ne dis pas que tous les citoyens sont d'accord avec moi ou les citoyens sont d'accord avec vous. C'est un petit peu plus subtil que ça.
Mais le débat, un conseil municipal, c'est fait pour débattre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne soit pas d'accord tous les deux.
C'est ce qu'on fait, non? On débat et on n'est pas d'accord. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était cohérent avec votre position depuis le départ et que je n'ai aucun souci avec ça. Je vous propose donc de passer au vote s'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a des...
J'insiste sur le vote à bulletin secret sur une décision comme ça.
Non.
Mais si, j'insiste. Si. Oui, non mais...
Ok, vous avez insisté.
Vous allez vous le faire reprocher énormément.
Non, je répète.
Mais si, ça...
Monsieur Luneau, il faut assumer, dans la vie politique et dans la vie municipale, on assume des choix, on prend des décisions, elles ne plaisent pas à tout le monde. Ce n'est pas la décision numéro un, ce n'est pas le schéma numéro un que je fais, mais je l'assume, et donc ce n'est pas la peine d'aller se cacher pour un vote à bulletin secret. Si quelqu'un de la liste veut voter contre, j'ai aucun problème avec ça. C'est déjà arrivé. Donc, on est un groupe très libre. Enfin, voilà, sur le musée, Jean-Luc a pris une position qui n'était pas celle du groupe. Voilà, c'est, ça arrive, c'est la vie démocratique. Parce que vous croyez que, je pense pas que je les terrorise, et je pense pas qu'ils se sentent obligés de me suivre au bout du monde. Si d'ailleurs, ce n'est pas que ma décision. On en a parlé en groupe. Exactement. Donc, pas de vote à bulletin secret.
On est déjà.
Vous parlez de prendre des décisions, donc nous avons pris tous ensemble la décision de voter le règlement intérieur du conseil municipal. Article 30, le bulletin secret a lieu à la demande du tiers des membres présents.
Oui, mais tiers. Non, mais il n'y a pas le tiers.
Donc ce n'est pas à vous de décider, c'est pas vous seulement, c'est au conseil de décider si un tiers au moins, donc 7
oui,
personnes.
Alors est-ce qu'il y a un tiers qui vote pour le bulletin secret ?
Ou qui est contre ?
Voilà, le règlement est respecté. Le règlement
je vous remercie
est respecté,
que ça a été clarifié, merci. Qu'on suive les règles qu'on a établies.
Mais je suis toujours les règles, monsieur Laborde.
Oui, mais...
Donc, non, maintenant, demandez... on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre donc, cette modification du PLU hein, est-ce qu'il y a des abstentions? Parfait. Donc, la modification est adoptée. Je vous remercie. On passe donc, monsieur Durand, au périmètre délimité des abords.
Périmètre délimité des abords. Ça a été présenté au Conseil, je crois que c'était le 24 septembre, par monsieur Wagon. Hein, donc, ça avait reçu l'avis favorable, d'ailleurs, du Conseil municipal. Et ça a été soumis simultanément à l'enquête publique pendant la modification numéro 1 du PLU. Donc, ont répondu également donc, aux consultations au périmètre délimité des abords, la commune de la Trinité, Plouarnel et Erdeven. Et ils ont approuvé les modifications. Voilà. Je rappelle un truc, c'est que le périmètre délimité des abords, c'est obéi à la même logique que les anciens périmètres de protection des monuments historiques, autrement dit le fameux périmètre des 500 mètres que l'on connaît tous dans l'instruction des dossiers d'urbanisme. Voilà. Ils peuvent être plus restreints, plus larges. L'avantage, c'est qu'ils cernent beaucoup plus le monument et surtout ne condamnent pas à 500 mètres de là des propriétés qui n'ont pas été vraiment trop concernées, quoi.
Il y a des questions sur ces périmètres délimités des abords ?
Non, pas des questions, mais une remarque. C'est vrai que, vous voyez, on vient de débattre sur notre surface verte, donc là au Ménec. Et là, le bordereau d'après, on aborde tout ce qui est environnemental, préservation du patrimoine. Bon, on se fait plaisir, quoi. Hein, parce que finalement, quand je lis il faut savoir que Le terrain de sport qui était une zone de loisirs a été modifié, donc maintenant en zone à construire, on va dire. Mais elle a le petit P, donc théoriquement une zone à protéger. Et quand on lit, donc la délimitation du périmètre doit permettre la constitution d'un ensemble cohérent avec le monument historique. Bon, là, il n'y en a pas, il y a le menhir un peu plus haut, enfin quand même, concerné. Ou assurer, si ça, c'est là où c'est important, la conservation ou la mise en valeur du monument historique. Bon, d'accord. Que la proposition du périmètre délimité des abords tient compte du contexte architectural, patrimonial, urbain ou paysager. Donc, on écrit des choses, on vote des choses, mais quand il y a une volonté politique à faire différemment...
Est-ce que vous avez noté que ça concerne les monuments historiques ?
Oui, mais il y a le
vélo... Est-ce que le terrain de football est un monument historique ?
En tout cas,
est-ce qu'il est classé monument historique ?
Pardon ?
Est-ce qu'il est classé monument historique ?
Pas encore. Non, mais c'est pas ça.
Pas encore.
Ce que je veux dire,
non,
c'est
il ne l'est pas. Donc, ça concerne les monuments historiques.
Dans un tel bordereau, on se fait plaisir en disant qu'on va protéger notre patrimoine. Je veux dire, aujourd'hui, les mètres carrés en herbe, c'est du patrimoine.
Madame Le Golban, ça s'appelle un hors-sujet, parce que ça concerne les monuments historiques. Ça ne concerne pas la protection en général, ça concerne la protection des monuments historiques. C'est une loi nationale.
Peut-être, mais
c'est vous qui vous faites. C'est vous qui vous faites. Non, mais c'est vous qui vous faites plaisir là, parce que vous êtes hors sujet.
Pas vraiment. Tout ça, c'est le sujet, monsieur.
Donc, pour les monuments historiques, est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité. Je vous remercie, monsieur Kergosien. C'est à vous pour l'extension de la surface mise à disposition de monsieur Vincent Sylvestre, notre cultivateur de lin, c'est ça ?
De chanvre.
De chanvre, pardon. Mais pas le chanvre qui se fume.
Non, voilà.
Non, je crois pas.
Donc, aujourd'hui, donc, Vincent Sylvestre exploite un peu plus de 5 hectares. Il y a eu donc une convention avec les propriétaires sur une surface de 8 hectares 59 qui autorise donc la municipalité à lutter contre le baccaris donc dans cette sur cette surface et donc on a installé donc la Vincent Sylvestre pour l'objet étant de ne pas avoir à, d'une part à nettoyer tous les ans le ces surfaces-là, ce qui représente un coût, et d'autre part, faire en sorte que ces terres-là puissent être, avoir une utilité. Et l'enjeu pour Vincent Sylvestre, c'est également d'avoir une structure qui soit viable. Et l'objet, c'est d'approuver l'autorisation pour Monsieur Sylvestre d'exploiter 3 hectares 45 supplémentaires qui ont été défrichés cet hiver.
C'est en bio, hein, on est...
C'est en bio, les cultures... Voilà, ouais. Il veut faire une rotation entre du chanvre, du lin et du blé noir, mais cette année, il met du chanvre partout parce qu'il y a une demande du marché, en fait. Mais ce sont des cultures qui sont peu exigeantes et donc qui se cultivent très bien en bio.
Il n'y a pas besoin d'eau, j'espère, parce que... En ce moment, il nous faudrait quelques pluies.
Mais c'est semé et ça sort.
Ça sort, bon, bah, tant mieux. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport ?
Ouais, juste une petite question. C'est, il y a une convention entre mairie et propriétaire. Elle est juste pour un an et renouvelable ou elle a été faite pour X années ? Ce qui veut dire qu'on peut avoir M. Sylvestre X années.
Alors, elle a été faite pour une durée de 10 ans. Enfin, un an renouvelable sur une durée de 10 ans. La convention avec Vincent, entre la mairie et Vincent Sylvestre, est également annuelle, mais renouvelable par tacite reconduction. Et bien entendu que son avenir professionnel n'est sans doute pas que sur ces surfaces-là, et déjà sur ces parcelles-là, et que sur cette surface-là, puisqu'il a la volonté de progresser au niveau de son exploitation, de progresser en surface, puisqu'il m'a indiqué que son objectif sera d'atteindre 40 hectares. D'accord. Donc d'un autre côté, personnellement, j'ai travaillé avec lui pour trouver d'autres surfaces où le contrat se fera entre lui et les propriétaires des parcelles en direct sans passer par la mairie. Et à l'avenir, il y aura des parcelles de disponibles sur Carnac-Plage.
Une dernière chose que je crois que excusez-moi. Je crois que l'an dernier, on avait signé pour 1 ou 2 ans gracieusement, il me semble, la mise à disposition de ces terrains-là.
Oui, tout à fait.
Dans cette convention mairie-propriétaire, c'est gracieusement pendant les 10 prochaines années ou potentiellement l'an prochain, on discutera s'il y a un petit loyer.
C'est écrit gracieusement et le contrat renouvelable par tacite reconduction. Oui, donc en fait, il a un associé, donc il a des projets d'avoir une structure viable, de partager également le travail, et puis là il a ouvert donc une boutique avenue de Port-Andreau pour vendre et valoriser sa production.
Bon, j'imagine que. Il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, merci au service technique, hein, Gérard, parce que le défrichement de cette zone qui était quand même à l'abandon et qui était livrée aux baccaristes depuis de nombreuses années, c'est fait de manière... je pense que c'est une excellente initiative et j'ai beaucoup de retours de gens qui d'ailleurs voient maintenant visuellement le fond de Lance du Pau, ce qui a complètement changé le paysage. Et donc, il faut continuer si on peut, parce qu'à cet endroit-là, non seulement c'est joli, et en plus, c'était vraiment un territoire des baccaristes.
Je pense qu'on a démarré pour les baccaristes, et après il y a l'agriculteur qui s'est greffé dedans et qui nous a permis de continuer à nettoyer, parce que nous on en a fait une partie, mais lui en a fait aussi. Hein. Tout le monde s'est mis, je pense que tout le monde a mis la main à la pâte. Et c'est vrai que s'il peut agrandir et continuer, puis on a vu qu'il y a un jardin familial qui s'est mis à côté, un jardin partagé qui s'est mis à côté, donc Saint-Colomban, en 2-3 ans, a changé un peu de visu dans l'ambiance qu'il y avait, donc pourvu que ça dure bien. Et,
C'est parfait. En tout cas, merci aux services techniques et merci aux élus en charge. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Lejean, création d'un mariage, un marché estival, pardon. C'est vrai qu'on est dans la saison, mais...
C'est le renouvellement de l'essai qui a été fait l'année dernière sur un petit marché bio qui a lieu derrière l'office de tourisme dans le parc, et donc de le renouveler pour cette année sur la période de juillet et août. Un marché bio et de producteurs. Je précise bien les deux, c'est volontaire. Et c'est à peu près, il y a à peu près 10 entreprises qui viennent.
Producteurs locaux et bio. Je crois que tu as eu du succès l'année dernière, donc c'est quelque chose qui va s'installer dans le temps, enfin on l'espère. Monsieur Luneau ?
Et vous n'auriez pas préféré, quitte à faire une halle, enfin un endroit où on vend de l'alimentation, développer un marché bio à l'année
On a déjà un supermarché bio.
Oui, mais un marché, là, vous faites un marché de producteurs locaux qui est de déballeurs. Ça aurait été intéressant de faire une...
Pour créer des halles, il faudrait qu'on ait une activité tous les jours derrière. Or, nos producteurs vont sur différents sites et c'est ce que leur souhait. C'est pour ça qu'on reste sur une logique de marché, puisque si ça a lieu le mardi à Carnac, ça peut avoir lieu un autre jour sur une autre commune. Or, si vous faites des halles, c'est systématiquement tous les jours. Voilà. Et je vous rappelle que on est en plus sur quelque chose de novateur, de nouveau, avec une volonté de l'implanter sur Carnac Plage, puisque à Carnacville, on a aussi sur le marché hebdomadaire des producteurs bio qui existent derrière. Donc c'était un petit peu aussi de faire quelque chose de novateur sur Carnac Plage. Et pour l'instant, idéal, non, il n'y a pas la demande, même n'existe pas.
Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur ce marché bio? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Alors, le prochain rapport en l'absence de Marie-Pierre, c'est moi qui vais le prendre, hein, puisque nous devons, au titre du décret du 10 mai 2021, nous avons choisi donc de créer un comité social territorial, comme la législation nous le permet. On a déjà un comité technique qui regroupe les agents à la fois du CCAS et de la commune, hein, 132 agents, mais là, on le met en place, je dirais, de manière administrative. C'est une manière de traiter l'ensemble des problématiques sociales et de la commune au sein d'un organe unique qui est donc cette création récente qui est le comité social territorial commun, donc entre les deux entités. Et donc je vous demande l'autorisation de pouvoir créer ce comité social territorial. Pas d'objection, j'imagine. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Je vous remercie. D'accord. ACTA, le rapport d'activité, j'imagine que vous avez pu en prendre connaissance. En tout cas, il est disponible, évidemment, en ligne. Il ne donne pas lieu à un vote, évidemment, mais comme l'ensemble de ces rapports d'activité, ils sont particulièrement intéressants. Et donc, nous allons simplement prendre connaissance de ce rapport et donc le signifier aux conseillers municipaux. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ce rapport, Monsieur Laban?
Oui, concernant le déploiement de la fibre optique, donc on s'est mentionné dans ce rapport, page 43. En 2015, on nous promettait les premières prises pour 2017. L'engagement de Mégalis, c'était pour la première partie de la phase 1, d'avoir environ 1 000 de prises déployées sur Carnac d'ici 2018. Les premières prises ont été déployées. Aujourd'hui, selon les données de l'ARCEP, on est à 197 prises de disponibles sur le territoire de la commune, donc bien loin du millier qu'on attendait en 2018. Est-ce qu'on a des renseignements sur la poursuite de ce déploiement? On voit qu'on a des budgets assez conséquents, 2 millions d'euros presque en 2021.
J'imagine donc que vous avez lu dans la presse, Monsieur Laborde, que la région et Mégalis sont très attaqués sur parce que c'est leur compétence, hein, même si ACTA cofinance. La Bretagne a un retard énorme en termes de déploiement de la fibre. La région a été un petit peu chahutée sur la question. Mégalis a été l'objet de plusieurs, restructurations parce que ça ne va pas assez vite. Et Carnac pâtit, comme le reste de la Bretagne, d'une vitesse de déploiement qui n'est pas satisfaisante. Mais normalement, les objectifs sont, en termes de prise, sont maintenus. Hein, c'est simplement le déploiement. Je sais que dans le bourg, une grande partie du bourg est déjà accessible à la fibre. Mais en tout cas, le nombre de prises et les objectifs sont maintenus. Dans le reste de la commune, il s'agit plutôt d'un renforcement des réseaux ADSL pour obtenir du haut débit via la DSL et non pas la fibre. Le coût de la fibre étant évidemment très très important et ne peut être déployé que dans des zones extrêmement denses pour des raisons évidemment économiques. Donc c'est clairement un problème. Et on l'attend, c'est pas faute de harceler Mégalis, hein. On a beaucoup de mal à les contacter, beaucoup de mal à savoir quels sont leurs plans de déploiement, mais je crois qu'ACTA a un peu les mêmes difficultés que nous, puisque nous on passe par ACTA quand on veut passer, quand on veut leur en parler. Non, c'est bon. Un incendie de bottes de foin, donc il va pouvoir traiter son rapport.
Alors, le marché de restauration collective, en fait, arrive à échéance à la fin de l'année. Et du coup, il s'agit tout simplement d'autoriser, en fait, de relancer le marché, mais avec un groupement de commandes, comme on l'a fait sur le précédent marché, c'est-à-dire un groupement de commandes entre la ville et le CCAS. Qui concerne la restauration collective à la fois du restaurant scolaire et de la résidence autonomie.
Pas de questions ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Lejean, rapport 14 sur la convention financière et le partenariat avec les usages de Mégalis.
On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure avec Skedanos, hein, donc ça, c'est juste vous dire, c'est une convention financière de partenariat de paysage de mégalithes pour Skedanos. Je vous répète, hein, Skedanos, on est quatre acteurs dessus avec comme pilote mairie et CMN et comme partenaire paysage de mégalithes et l'office du tourisme.
Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Abstention ? Le rapport est donc adopté. Je vous remercie. Monsieur Lejean, l'événement qui va animer Carnac ce week-end ?
Journée depuis quelques mois. Tout à fait. Alors juste avant de démarrer effectivement le point 15, pour revenir sur le point 14, juste pour vous donner une petite information, Luminise démarre à partir de demain soir sur l'église Saint-Corneille. Je vous rappelle, Luminis, un son et lumière sur l'église, et on a voulu pouvoir animer aussi sur le mois de juin. Donc sur la période du mois de juin, Luminis démarre le vendredi et le samedi à partir de 23h et c'est gratuit. Voilà, je voulais juste vous donner cette info-là. Vous êtes bien sûr tous invités à aller voir le nouveau son et lumière sur l'église Saint-Corneille. Sur l'association bretonne de véhicules anciens BVA, donc on a une manifestation qui a lieu ce week-end. Hein, on en a parlé tout à l'heure de la subvention. C'est pour avoir une subvention de l'organisation à la hauteur, effectivement, de 25 000 euros, avec 15 000 euros à la signature de la convention et 10 000 euros à la fin de la manifestation. Donc, cette manifestation aura lieu à partir de samedi. Les premiers véhicules vont arriver demain. Si vous êtes allé sur le site de Saint-Colomban, donc le site qui va accueillir l'ensemble de cette manifestation, les adhérents sont accueillis sur le terrain du cirque et les voitures sont en exposition sur le boulevard de l'Océan à Saint-Colomban pendant samedi, dimanche et lundi. Excusez-moi, j'ai un chat. À partir de 14h samedi midi, nous aurons l'inauguration effectivement de la BVA et à partir de là, les 800 véhicules, puisque c'est 800 véhicules qui vont être là, à peu près 450 à 500 véhicules 4 roues, alors voitures, pardon, à peu près 200 véhicules 2 roues, motos, ça va du Solex à des motos, et des véhicules utilitaires et publicitaires qui sont effectivement aussi présents. L'activité donc samedi commence à 14h30 avec le départ, un petit mot du président et du maire et peut-être du président de la communauté de communes. Vous êtes tous invités, vous avez normalement dû recevoir. Derrière, ils vont faire un tour sur Locmariéker, donc ils vont faire Carnac, ils vont prendre le boulevard de la plage, ils vont aller à la Trinité-sur-Mer, Saint-Philibert par la côte, Locmariéker, ils reviennent à la Trinité-sur-Mer avec une halte, et ils reviennent effectivement par les menhirs pour pouvoir animer effectivement dans quatre points de notre commune à partir de 17h, c'est-à-dire dans le bourg rue Saint-Cornélie, on nous aurons une exposition des véhicules français des années 50-60, au niveau du Casino Circus, ce qu'on appelle Las Vegas, avec des véhicules américains, au niveau de Port-Andreau, les véhicules publicitaires, et derrière l'office de tourisme, les véhicules français décapotables des années 50-60. Ceci pendant un peu 2-3 heures, et après, ces véhicules se reviendront directement, effectivement, à Saint-Colomban pour une exposition à Saint-Colomban. Le dimanche, à partir de 9h30-10h, les véhicules vont partir pour une grande balade en allant jusqu'à Pontivy, avec un repas qui est prévu à Pontivy, et revenir effectivement en soirée. Donc là, ce sera relativement étalé, hein, puisque 800 véhicules, ils arrivent pas en un quart d'heure. Donc ça va être très étalé. Le soir, il y aura quelques animations qui est organisées effectivement par les associations carnacoises, et je remercie Carnac Football Club, le Bagad, comité de jumelage Inerticen, comité de jumelage de la CUSA, qui ont répondu positivement à notre demande. Je remercie aussi différents acteurs économiques de notre territoire qui vont animer effectivement ce boulevard de l'océan, que ce soit le Crescent Navel, le Cinco, mais aussi des opérateurs qui sont sur le marché. Et derrière, nous aurons effectivement, et là je vous demanderai tout simplement de le garder pour l'instant en interne et de ne le donner que à vos proches, un feu d'artifice qui sera tiré de la cale de Saint-Colomban. Messieurs de la presse, vous les reprendrez pas dans la presse, s'il vous plaît. Vous attendrez encore un petit peu avant que je vous donne le feu vert. Mais je vous donne l'information, un feu d'artifice qui va être tiré de la cale de Saint-Colomban en direction, effectivement, de la mer. Et il y aura un grand écran géant qui sera au bout de Saint-Colomban côté Tibillon, qui va projeter dessus toute l'histoire un petit peu de la BVA et les dernières années de ce qu'on fait la BVA. Et le lundi matin, il y a le départ tranquillement pour aller faire un petit tour. Ils reviendront à midi pour manger, et l'après-midi tranquillement ils repartiront, tout simplement. Voilà. Ah, c'est 800 véhicules, 1500 adhérents qui seront présents sur le site derrière. C'est une organisation relativement importante et lourde. Et voilà, en espérant d'avoir plein de visiteurs pour venir voir ces véhicules anciens.
J'ai cru croiser Pierre Léon dans une belle 4L. Elle est éligible à la BVA. Hein. Si tu veux exposer rue Saint-Cornélie, enfin, je sais que tu es en campagne en ce moment, mais... Ah, c'est pas grave, ça, c'est pas grave. Au contraire, elle a du charme. Et alors, il n'y a que des voitures françaises. Ceux qui ont des vieilles voitures d'autres nationalités, ils ne peuvent pas.
Sur la BVA, vous avez tous les véhicules tous les anciens véhicules. Par contre, on a voulu faire des thèmes pour les arrêts dans Carnac, parce qu'on voulait faire vivre aussi Carnac et pas que ce soit que à Saint-Colomban. Donc, on a fait quatre points un petit peu. On a essayé de trouver des thèmes. On a pris ces thèmes-là. On aurait pu prendre d'autres thèmes, mais voilà.
Par contre, celle de Yann n'est pas éligible à la BVA. Elle est trop moderne. Elle est trop moderne. Non, pas l'actuelle.
Pour la petite blague, si ça vous intéresse, j'ai fait le collage d'affiches. J'ai fait plus de 700 km.
En 4L traverse...
Oui, avec la 4L, j'ai traversé les... Alors, 39 communes, moins les 4 de Belle-Île, les 2 de Ouattédic.
En bilan CO2, c'est pas super. Hein.
En courant, j'aurais pris plus de temps. J'aurais pas fini à temps.
Non, mais en Tesla, tu aurais mis moins de CO2. Non, mais c'est bien. Enfin, moi, j'adore les vieilles voitures. Donc,
plus de 700 km pour faire le tour de la circonscription.
C'est increvable, les 4L.
Donc, vous êtes tous invités à venir voir et surtout à participer à la BVA. Et n'hésitez pas à venir. Une organisation avec demain, effectivement, sur la partie de la Croix des Émigrés, des parkings qui pourront déposer vos véhicules, et avec une logistique petit train. Donc, monsieur Le Bayon qui a mis à disposition les petits trains pour envoyer effectivement l'ensemble des visiteurs sur Saint-Colomban.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce... Oui. Oui.
Avec Charles, on a une remarque. 25 000 euros, c'est eux qui demandent, c'est l'association qui les demande.
Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, c'est ça, vous allez... Enfin, je suis un peu angoissé parce que le nombre de visiteurs sur ce type d'événement, c'est juste énorme. Hein. En général, ça attire vraiment beaucoup de monde. J'espère que...
Donc, appel aux bénévoles.
Voilà, appel aux bénévoles.
Tout à fait, s'il y en a qui sont libres, on est preneurs, toujours.
Enfin, bénévoles. Comme c'est Monsieur Lejean qui a organisé, s'il y a le moindre problème, vous savez à qui vous plaindre.
J'ai vu que le Carnac Football Club aidait ces gens-là.
Alors, en fait, non, mais le Carnac Football Club, ils vont faire des activités qui vont leur rapporter de l'argent. C'est-à-dire qu'ils vont faire...
Ils font une buvette,
et donc Carnac Football Club va se financer, en fait, sur l'événement. Comme toutes les associations carnacoises.
Alors, je vais être de mauvaise foi, je vais continuer quand même. Et est-ce que si le Carnac Football Club réussit à remonter une équipe, et même deux équipes pour le mois de septembre, avec des nouveaux renforts, est-ce que cette association-là et ces gens-là qui, à mon avis, vont pas au Lidl toutes les semaines, avec les belles voitures qu'ils ont...
Ah non, attends, alors, va voir, parce que c'est pas que des belles voitures. Hein. Oui, t'as énormément de...
Il y en a déjà d'arrivées, il y en a des très belles.
Il y en a des très belles, mais il y en a énormément de 4L.
Il y a des deux chevaux, il y a des 4L, ouais. Tout à fait.
Mais il y a Sonex aussi.
Il y a plus de 100 000 euros aussi, à qui on donne 25 000 euros. Donc je voudrais... Est-ce que tous ces gens-là viendront aider l'équipe de foot si on la recrée ?
Je ne sais pas ce qu'elle répond.
Ah, bah, il faudra poser directement la question.
On ne donne pas aux propriétaires, on donne à l'association qui gère ce patrimoine. Oui.
Mais c'est l'animation, hein, c'est la. Enfin, comment je vais dire ?
Va bénéficier de l'animation en question, de la prestation,
Donc, on a sollicité, alors je me suis mal exprimé, peut-être, je veux bien le reconnaître, on a sollicité effectivement toutes les associations s'ils voulaient participer à l'animation en mettant effectivement les chapiteaux en place pour qu'ils puissent faire une prestation de service économique, ça va être clair. Donc, entre autres, les quatre associations se sont regroupées, enfin Yann, si tu reprends la main, hein, si tu veux, parce que je sais que t'en fais partie, Chris aussi, derrière, pour effectivement proposer aux visiteurs soit de la bière, soit des galettes saucisses, derrière, pour en tirer un profit pour eux. Donc, si vous voulez, il y a une animation qui amène du monde, et effectivement, on demande aux associations si elles veulent effectivement en profiter pour créer une animation, pour récupérer effectivement des données économiques. Pour ne pas dire un autre terme. Après,
tu peux être très bon dans le registre, hein, je sais. En tout cas, les associations dans les autres d'autres événements qui sont produits ailleurs ont fait des chiffres d'affaires relativement impressionnants. Donc, c'est ce qu'on...
Ouais. Tout à fait.
C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite, ce qui arrive.
Une animation avec une forte communication derrière pour faire bénéficier les associations si elles veulent effectivement animer cette animation-là en plus, en termes de prestations de services et rémunérées, bien sûr.
Bon, est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Madame Le Golvant ? Le rapport est adopté. On passe maintenant aux subventions communales. Madame Lamandé.
Oui, tout à fait. C'est une redondance avec ce que nous a dit Pascal tout à l'heure, puisqu'il nous a déjà cité les associations qui sont concernées. Comme vous savez, on fait les demandes en début d'année, mais on a laissé un petit peu de souplesse encore pour cette année, puisque certaines associations n'ont pas eu le temps de pouvoir remplir leurs demandes, entre autres. Et puis, d'autres demandes nous sont tombées dessus, mais notamment pour l'Ukraine, on pense que il n'y a plus de question de savoir si c'est le délai ou hors délai pour la demande de subvention. Donc, pour l'instant, ce que l'on propose, c'est d'attribuer à Ograou. Ograou, c'est l'association qui s'occupe du festival d'orgue qui a lieu tous les ans en été. On propose de leur donner 3 500 €. Pour l'association, aujourd'hui est une bonne journée. Alors, cette association, c'est une association nouvellement créée qui s'occupe du Festival PACA. Le Festival PACA, c'est le festival qui a lieu à... le lieu m'échappe... Au Poulbert, oui, merci, au Poulbert. Et donc, cette association a fait déjà en 2019 un concert.
Et elle le fera encore cette année, le 16 et 17 juillet. Et on estime que c'est quand même une association que l'on veut soutenir parce que le festival nous intéresse, étant donné que c'est un festival qui, non seulement est intéressant au niveau de la musique qui est jouée, parce que c'est une musique du monde, et donc il y a beaucoup d'acteurs, de beaucoup de musiciens qui viennent d'un peu partout. Et ils ont une action de sensibilisation à l'environnement, pour... voilà, co-responsabilité et environnement durable, n'est-ce pas ? Donc je pense que de ce côté-là, vous allez être d'accord. Donc on propose 1 000 euros pour cette association. Et pour l'Ukraine, là, j'ai pas besoin de faire de commentaires, 2 000 euros pour l'association, pour l'achat de matériel médical et de médicaments. Et il reste la REDADEG, dont le rôle est de défendre la... Et la transmission, non seulement la défense, mais la transmission aussi de la langue bretonne, et leur attribuer une subvention de 350 euros qui correspond à l'achat du kilomètre que notre voilà, hein, que notre mère a couru
sous la canicule,
sous le cagnard. Donc voilà. Donc je résume, 3 500 pour au Graou, 1 000 euros pour aujourd'hui est une bonne journée, 2 000 euros pour l'Ukraine et 350 euros pour l'achat du kilomètre pour la REDADEG. Et donc on leur demande d'autoriser Monsieur le maire ou un adjoint délégué à signer le document nécessaire au versement de ces subventions.
Des questions ou des... On a déjà vu ça tout à l'heure. Pas de vote contre, pas d'abstention. Unanimité, je vous remercie. Monsieur Marc Albert, la surveillance des baignades, des activités nautiques, la convention comme chaque année avec le SDIS.
C'est une convention qui a été renouvelée pour 3 ans avec le SDIS, pour 70 000 euros par an, pour surveiller les plages de Saint-Colomban et puis de la Grande Plage, avec 13 sauveteurs. Et ce sera ouvert du premier week-end de juin au dernier week-end de... premier week-end de juillet. Au dernier week-end d'août, et en même temps, il y aura les aides opérateurs qui arriveront une ou deux journées après au mois de juillet, mais qui fermeront en même temps au mois d'août, pour les personnes à mobilité réduite à la Grande Plage. Voilà.
Parfait. Bon. Dispositif annuel. Hein. Enfin, pas de vote contre, j'imagine. Pas d'abstention non plus. Je vous remercie. Le rapport est adopté à l'unanimité. Monsieur Lejean, des admissions en non-valeur, c'est toujours déchirant.
Oui, enfin, c'est une admission en non-valeur à la demande de la trésorerie. Impossible de recouvrir cette non-valeur. Donc, c'était l'occupation du domaine public communal en 2019 pour un montant de 85 euros.
On n'a pas le choix, de toute façon. Que de l'adopter. Donc j'imagine qu'il n'y a pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Monsieur Lejean, le service de transport collectif, la fameuse carnavette.
Tout à fait. Comme tous les ans, effectivement, il y a une convention de participation des différents opérateurs économiques de notre territoire à la carnavette. Et donc c'est la grille de tarification, de participation pour nos opérateurs économiques sur notre territoire.
Pardon, vous avez juste indiqué que les chandelles s'étaient manifestées, donc aucun autre a priori. De fait, ça veut dire que c'est juste la commune qui paiera la carnavette et aucun des autres commerces, comme il est indiqué.
Alors, là, tu parles de la Carnouse. Il y a deux noms, bon, c'est pas grave, carnavette, Carnouse, hein. Je suis d'accord, à un moment j'ai voulu le dire. Et effectivement, sur la Carnouse, pour l'instant, il n'y a que, comme depuis plusieurs années, que les chandelles qui, effectivement...
Pardon, je change ma phrase. Du coup, la carnavette... Clairement, c'est la mairie qui va payer parce qu'il n'y a aucun des commerces, hôtels, restaurants qui va participer, ou pas.
C'est justement, c'est là... Non, c'est pas du tout ça. Ça, c'est la grille, nouveau tarif de participation des acteurs. Donc, on a des acteurs qui participent sur la carnavette tous les ans, qui correspond à peu près à un quart du budget. On essaierait de le faire pousser un peu plus loin. L'objectif de cette participation des acteurs économiques de notre station, c'était de permettre aussi de dégager un budget pour pouvoir augmenter des nouvelles lignes. Pour aller un peu plus loin, c'était un petit peu l'idée de départ, hein. Donc ce qu'on continue à faire, pour l'instant on est bloqué sur 3 lignes, hein. La ligne effectivement du Nord, la ligne Bourg-Plage et la ligne Plage, avec une liaison, je vous rappelle, avec le Trinibus au Mendu, hein, puisqu'il y a une convention avec la mairie sur le Trinibus. Sur la Carnouse, qui elle fonctionne un peu plus à la demande, comme partenaire, nous avons effectivement les chandelles, et comme partenaire, nous avons aussi la Trinité, puisque nous, à la demande de la Trinité, ils ont demandé de pouvoir bénéficier de la Carnouse.
Thank you.
Juste pardon. Une question. Tous les commerces ou les campings devant lesquels vous vous arrêtez, en fait, participent nécessairement ou...
Tout à fait.
D'accord.
C'est autrement, on n'y va pas.
D'accord. Et pour l'équivalent la nuit, il n'y a que les chandelles qui participent.
Et la Trinité qui souhaite... voilà, oui, tout
et
à fait.
Et aucun autre établissement
alors, aucun dans, autre, pourquoi
dansant et Abreuvant
Alors, Abreuvant, je... Chaque année, c'est un peu compliqué. Alors, plutôt dansant, puisqu'on a décalé les horaires plutôt sur les horaires d'établissement de nuit. Sur le Sirouen, il a une propre organisation en interne qu'il utilise. Et sur le duplex, pour l'instant, on a un peu éloigné. Alors, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on met en œuvre? Si vous voulez, au début de la Carnot, c'était l'idée, c'était effectivement les bars de nuit, le petit bedon, le whisky club, les chandelles. On avait effectivement une concentration qui nous permettait de ramener effectivement nos jeunes directement, soit en camping ou soit chez eux à des endroits précis. Éviter aussi qu'ils déambulent de trop dans les rues et qui effectivement aient des nuisances sonores. C'était un peu l'objectif. Après, ça a évolué. Aujourd'hui, on se pose effectivement certaines questions dans le mode de fonctionnement. Maintenant, je vous rappelle, il y a eu pendant 2 ans le Covid. Les établissements de nuit ont été fermés. L'année dernière, ça a réouvert. Effectivement, sur la partie de mi-juillet, la remise en route a été un petit peu complexe. Et on a besoin de voir un petit peu les évolutions. Puisque pendant 2 ans, on a été hyper contraints, et Gérard vous en parlera beaucoup mieux que moi, sur des problèmes de nos jeunes qui étaient sur le boulevard de la plage derrière. Bon. Donc...
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le dernier rapport, donc, c'est la constitution d'un groupement de commandes sur la maintenance et l'allocation des copieurs. Et donc, bon, je pense que vous avez... c'est pas la peine de développer. Hein, ça, évidemment, c'est pas la peine de développer. Et donc, il y a 4 communes qui se mettent en tente pour acheter moins cher et louer des photocopieurs. Et donc, on a dans cette perspective l'obligation de désigner des représentants de la ville. Et je vous propose donc de désigner M. Pascal Lejean et Mme Marie-Pierre Gasser dans cette perspective. Est-ce qu'il y a des questions sur ce groupement de commandes? Non. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Il n'y a pas de questions diverses ni de questions orales. Je vous rappelle donc que les élections législatives se tiennent le 12 et 19 juin 2022 et donc vous êtes tous joyeusement conviés, même les candidats, j'ai appris, à tenir un bureau de vote. Vous surveillerez bien Pierre Léon qui ne bourre pas l'urne pendant son service, car il est candidat. Également, une réunion de présentation de l'extension du centre de secours de Carnac que nous devons moderniser si nous voulons le garder, donc qui aura lieu dans la salle du conseil municipal le vendredi 10 juin 2022 à 17h15, donc la semaine prochaine, ainsi que dans la foulée, pour ceux que ça intéresse, et je pense que ça intéresse tout le monde compte tenu de la problématique sur notre territoire, une réunion d'information sur le plan local d'habitat par ACTA au conseiller municipaux le vendredi 10 juin 2022 à 18h. Donc ça suivra la présentation par le président du CIVU, M. Marc Albert, sur l'extension du centre de secours. Voilà pour 2 réunions importantes. Comment ? D'accord. Voilà.
Pardon.
Monsieur Luneau ?
J'ai une question diverse, très diverse.
Allez-y.
Si on écoute les citoyens sur le cimetière dangereux, ce qui est très dangereux, c'est avenue du Roer. Est-ce qu'on pourrait mettre un coup de pinceau ? Il y a plein de gens qui se payent en voiture le petit potelet en métal parce qu'il y a l'ancien tracé qui apparaît. Les amis de Carnac, je sais, l'ont évoqué il y a plusieurs mois. Et pareil, de faire un petit coup de pinceau entre la...
À quel endroit exactement ?
Quand vous êtes avenue du Roer et que vous sortez la...
Monsieur Marc Albert s'en occupe.
Ouais, et pareil, la connexion avenue des Zacharie-le-Rouzic pour tourner avenue de Saint-Colomban, pareil, il y a plein de gens âgés, plus âgés, qui coupent parce qu'il n'y a pas le marquage et qui se retrouvent face à ceux qui arrivent par l'avenue de Saint-Colomban. Et je ne sais pas si c'est un marché public ou un coup de pinceau municipal.
Je pense que là, c'est un coup de pinceau municipal, enfin, sauf si c'est une départementale.
Ouais, et en fait, il y a l'ancien marquage qui apparaît.
Excusez-moi, mais pour faire de la peinture dans un enrobé qui n'est pas terrible dessous tant que les travaux ne sont pas finis et que c'est à moitié terreux, ouais. C'est compliqué de faire de la peinture parce que dès qu'il y aura trois voitures qui sont passées, ça ne marchera pas. Ouais. C'est pour ça qu'on avait mis sur le bac à fleurs, on avait mis un truc fluorescent pour que les gens tournent. Je suis d'accord, mais.
Je crois que ça suffit. Pour
à côté, c'est de l'enrobé dans l'état où il est, on ne peut pas peindre. Il y a des gens qui nous ont demandé de faire des peintures de stop sur du bicouche, c'est pas la peine de le faire parce que le gravier va partir, il y aura rien, donc c'est un peu compliqué, c'est un travaux et c'est ni fait ni.
Et
je suis d'accord avec vous.
Et effacer ce qui reste un peu de manière reste un petit fantôme de l'ancien marquage, c'est ça qui induit
en erreur. Quand on l'efface, on met la peinture noire dessus, la peinture noire repart au bout de 2-3 mois, donc c'est pareil. C'est compliqué, je sais, mais c'est très compliqué d'arriver à effacer une fois que c'est fait. C'est pas qu'on veut pas, c'est pour ça qu'on a mis quelque chose déjà sur le pot de fleurs. Après qu'il ait été enlevé, on a mis un truc sur le pot de fleurs à la demande des gens avec une flèche. C'est pas facile, mais la route, vous avez vu commencer, c'est nommeuse lande à droite, à gauche, c'est un peu ni fait ni à faire. Mais tant que ce sera pas fini, les travaux ne seront pas finis, qu'on ne pourra pas refaire la voirie comme il faut. C'est pas que je veux pas, c'est que c'est compliqué. Bon. Mais je le sais, je suis au courant, depuis un an et demi, ça dure, je sais, ou deux ans, comme deux ans. Il n'y a pas de souci.
Merci. Municipal en juillet, je pense.